Radio Kapi.
Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce journal, 24 avril 2016, 24 avril 2026, ça fait 10 ans jour pour jour que mourait Papa Wemba sur scène en Côte d'Ivoire. Ce jour-là, la planète a perdu un personnage multitalent, humain et inspirant. Aujourd'hui encore, les plaies ont du mal à se cicatriser tellement ce décès est brusque, brutal et incompris. Les rappels des faits dans un instant. En Ituri, la situation humanitaire devient alarmante dans plusieurs sites de déplacés du territoire de Djougou. Depuis le mois de mars, près d'une centaine de personnes, en majorité des enfants, sont mortes faute de nourriture et de médicaments. Ce constat a été présenté jeudi au nouveau chef de la MONUSCO, James Swan, en visite dans la région. L'invité de ce journal est Brigitte Henault, représentante du HCR au Burundi. Elle nous parle du retour à Uvira des réfugiés congolais en provenance du Burundi, ce jeudi 23 avril 2026. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Une date frisson pour la RDC que nous allons évoquer à présent. C'est aujourd'hui que le pays note le 10e anniversaire de la disparition de l'une de ses icônes culturelles, à savoir Papa Wemba, décédé le 24 avril 2016 en plein concert en Côte d'Ivoire. Ce jour-là, la planète a perdu un personnage multitalent, humain et inspirant. Aujourd'hui encore, les plaies ont du mal à se cicatriser tellement ce décès est brusque, brutal et incompris. Que s'est-il donc passé alors ces derniers jours de vie de l'immense Jules Chungu Wembadio, alias Papa Wemba? Le rappel de ces faits avec Dona Madimba Mbaya.
La dernière semaine de Papa Wemba commence en fait 20 jours plus tôt, car en effet, selon ses proches interrogés sur cette question, c'est depuis le 5 avril 2016 que le maître d'école et son orchestre Viva la Musica commencent la préparation des productions qu'ils vont livrer en Côte d'Ivoire. 6 au total, à raison de 2 prestations par ville, à savoir Abidjan, Korogo et Yamoussoukro. Tout est alors ok, signalent les proches du chef du village Molokai, et dimanche donc autour de 3h du matin, Papa Wemba et Viva la Musica sont déjà sur le site de son dernier concert. 4h, sa prestation pour 1h30 commence. Il a déjà chanté une trentaine de minutes quand soudain et devant le grand émerveillement du public, l'icône de la rumba s'écroule brutalement sur scène. Les instruments se taisent un à un, le temps de comprendre ce qui se passe. Et lorsque 100% star est soigneusement éloigné des regards sur une civière, malgré des applaudissements assourdissants du public, inquiet et en pleurs pour beaucoup d'entre eux, la messe est malheureusement déjà dite. Le petit rossignol quitte la terre des hommes ce dimanche 24 avril 2016. Là, laissant le monde sans mots, lui pourtant l'auteur de la chanson tube Phrase.
La journée africaine de la musique est célébrée chaque 24 avril. Cette date a été officiellement instaurée par l'Union africaine en juin 2016 pour honorer la mémoire de l'artiste congolais Papa Wemba, décédé sur scène le 24 avril 2016 à Abidjan lors du festival de musique urbaine Anomabo Femua. L'objectif de cette journée est de promouvoir la richesse culturelle du continent et d'immortaliser l'héritage de Papa Wemba, considéré comme le roi de la rumba congolaise et le pape de la sap. Mais 10 ans après sa disparition, que retiennent les Congolais de son héritage artistique et culturel? Nous en avons interrogé quelques-uns. Écoutez leur réaction dans ces propos recueillis par Jean-Marie Kanaimba.
Papa Wemba, je dirais c'est une icône. Parce que moi, je l'ai connu aussi à travers le film La vie est belle. C'est vraiment une légende, la musique. Il a vraiment marqué son temps à travers ses chansons. Le titre, je pense, c'est Maman, je crois. C'est une musique là, éducative. C'est vraiment de la bonne musique. Alors, je garde un très bon souvenir de Papa Wemba à travers ses nombreuses chansons.
L'influence de Papa Wemba aujourd'hui, qui a plus en fait donné cette philosophie-là, en quelque sorte, aux jeunes, si c'est Papa Wemba, c'est parmi, en fait, le sapeur, sinon le seul sapeur, et qui a vraiment donné tant de valeur à la bille et sa musique.
Papa Wemba, c'est parmi les grands musiciens de la République démocratique du Congo. Ce qu'il a amené d'abord dans la musique congolaise, on avait la rumba, mais lui a ajouté les rock dans la rumba. C'est là qu'on a écouté les cris Arumba Rock. Et dans la rumba, il a amené les locolés. C'est lui qui était parmi les premiers à amener les locolés dans la musique, dans la rumba. Et ça a donné une autre forme, un autre rythme dans la rumba. Et culturellement encore, Papa Wemba a formé beaucoup de jeunes musiciens, des jeunes aussi artistes et aussi des grandes stars.
L'artiste et musicien Papa Wemba, de son vrai nom Jules Chungu Wemba Dio, avait accordé de nombreuses interviews à Radio Okapi. Il répondait toujours volontiers aux invitations sans poser des conditions particulières. Dans cet extrait proposé par Alain Hirung, on l'écoute revenir sur la manière dont il a contribué à la révolution de la rumba congolaise.
Nous avons révolutionné cette rumba parce que nos aînés, ils utilisaient des instruments avant et nous avons, nous, écarté des instruments avant pour le remplacer par autre chose, c'est-à-dire des animations. Des animations qu'aujourd'hui on l'appelle Atalaku. J'ai décidé de créer mon propre groupe parce que mes amis, tous ils étaient à mes côtés pour me dire que voilà, que j'avais un charisme, que j'avais une voix, dont j'ai douté de moi, quoi. Tout naïf que j'étais, je me doutais de moi. Et puis, à bras les corps, j'ai pris la décision de créer ma propre formation Viva la Musica.
On connaît quand même quelques albums célèbres, hein, tels que celui réalisé avec le Kwakanza.
Ça, c'est un album qui a fait le tour du monde. C'est un album qui a propulsé Papa Wemba vraiment sur la scène internationale. D'ailleurs, j'ai toujours dit merci à mon jeune frère, le Kwakanza. Je crois que dans leur répertoire de la musique congolaise, je suis resté, si pas le seul, à faire beaucoup plus de featuring. J'ai chanté pratiquement avec tous. Et quand j'ai dit tous, vraiment, j'ai chanté avec tout le monde.
Notez que vous allez suivre l'intégralité de cette interview de Papa Wemba dans l'émission Grand Témoin, c'est dimanche 26 avril 2026 à partir de 9h05 heure de Kinshasa. Autre chose à présent, en Ituri, la situation humanitaire devient alarmante dans plusieurs sites de déplacés du territoire de Djougou. Depuis le mois de mars, près d'une centaine de personnes, en majorité des enfants, sont mortes faute de nourriture et de médicaments. Ce constat a été présenté jeudi au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, James Swan, en visite dans la région. Les déplacés lancent un appel urgent à l'aide pour sauver des vies. Reportage d'Isaac Remoyope qui revient de Fataki.
Au site de la plaine de Savo à Boulé, situé à environ 100 km au nord de Bounia, près de 60 déplacés sont morts depuis le début du mois de mars, selon les chefs de site. À cela s'ajoutent plus de 300 cas de malnutrition, principalement chez les enfants et les personnes âgées. Même situation préoccupante au site de Djaïba à Fataki, où l'on dénombre environ 40 morts faute de nourriture et de prise en charge médicale. Au site de Loda, également proche de Fataki, les conditions restent tout aussi critiques. Selon les responsables de ces sites, la majorité des déplacés n'a pas accès aux champs à raison des opérations militaires en cours et de la menace des groupes armés. Ils demandent un appui humanitaire d'urgence.
C'est quoi la tessèque à salle?
Nous souffrons beaucoup car il n'y a pas de nourriture. Les personnes meurent parfois 5 en une seule journée, parfois 2 et elles sont enterrées. L'accès aux champs est difficile pour aller chercher de quoi se nourrir.
De son côté, le chef de la MONUSCO s'est dit profondément préoccupé par la situation humanitaire dans la région. James Swan promet de relayer cet appel auprès de la communauté humanitaire.
D'autres agences des Nations Unies ont la responsabilité de répondre à des demandes d'ordre strictement humanitaire. Pour la MONUSCO, nos efforts de contribuer à une situation sécuritaire plus favorable aident les populations à répondre aux besoins de leurs familles.
Directeur de Fataki, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Le conseiller spécial en matière de sécurité et l'assistant particulier du chef de l'État ont visité ce jeudi la route des Rocades en compagnie du directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux ACGT. Cachemire Eberande, Paul Mundela et Nico Nzaounzaou ont parcouru tous les 73 kilomètres de ce projet sous une pluie battante sur une note de satisfaction. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Ces trois personnalités ont entamé leur visite au quartier Bouma où le site érosif a été maîtrisé. À cet endroit, le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux a fait le topo complet du projet en expliquant les étapes franchies par ces travaux réalisés par l'entreprise chinoise Siske SA et ses sous-traitants. Il cite, entre autres, les 73 km en cours de revêtement des ouvrages de franchissement dont trois ponts allant de 180 à 90 mètres de portée et l'opération d'expropriation de plus de 3000 personnes impactées par ces projets. Nico Nzaounzaou a expliqué que les tracés des rocades passent par des collines qui ne devraient pas être occupées par des habitations.
Tout le monde doit s'approprier de ce bijou. Parce que si aujourd'hui on ne fait rien sur cette route-ci, vous allez voir que dans quelques jours, on va encore construire des maisons, qu'on va encore venir détruire, qu'on va encore expropier. Et bien, tout l'argent qui pourrait servir de travaux ailleurs va encore être consommé ici.
À l'issue de cette visite d'inspection, l'assistant particulier du chef de l'État a salué le travail abattu. Paul Mundela.
Il faudrait que cet ouvrage soit livré, que les citoyens puissent palper du doigt et vivre cette merveille.
Les rocades sud-est et sud-ouest font partie du lot des projets que l'Agence congolaise des grands travaux tient à livrer d'ici fin 2027.
Dégradé et impraticable sur son tronçon compris entre la place Sainte-Thérèse Njili et la station, la route d'Okolo complique le quotidien des habitants de ces coins de la capitale. Hausse du coût du transport et conditions de circulation de plus en plus pénibles. Les riverains dénoncent l'abandon de cet axe stratégique qui relie les communes de Njili et Kimbanseki. Reportage de Magloire Landou Mayemba.
Nid de poules par-ci, boue et flaque d'eau par-là, c'est l'image que présente la route d'Okolo. Une situation qui complique la circulation, provoque les ralentissements des véhicules et impacte directement le coût du transport. Et pourtant, cet axe reste indispensable pour les usagers de la route comme les témoignent ces motocyclistes.
La situation de la route depuis Sainte-Thérèse jusqu'à Dokolo est vraiment très difficile. La route est en très mauvais état, il est difficile de passer. Quand il pleut, la situation devient encore pire. La route se dégrade davantage et il devient presque impossible de circuler.
Cette dame est fatiguée de payer plus d'argent pour le transport à cause du mauvais état de la route.
Ici à Dokolo, la route est vraiment en mauvais état. Je fais ces trajets chaque jour. Le transport est passé de 500 francs à 1000 francs et peut atteindre 1500 à certaines heures. Nous souffrons beaucoup et nous dépensons trop à cause du mauvais état de la route. La route est complètement dégradée. On réhabilite les routes secondaires alors que la route principale n'est toujours pas aménagée. On pense d'abord à améliorer cette route pour que nous puissions vivre dans de meilleures conditions.
Contactées, les autorités communales assurent que des dispositions ont déjà été prises par le gouvernement pour la réhabilitation et la modernisation de cette artère. En attendant, les habitants continuent de subir les conséquences d'une route devenue impraticable.
Suite de notre série de reportages sur les nuisances sonores à Bounia en Ituri, les nuisances sonores deviennent une préoccupation majeure pour de nombreux habitants. Dans plusieurs quartiers et lieux de travail, le bruit perturbe le sommeil, affecte la santé, mais aussi l'éducation des enfants et les rendements au travail. Face à cette situation, les habitants appellent les autorités à faire respecter la réglementation en matière de bruit afin de préserver la santé publique. Reportage Christelle Aïchi.
À Bounia, les nuisances sonores sont devenues quasi permanentes. Dans les quartiers comme dans les lieux de service, rares sont ceux qui échappent au bruit. En cause, les églises, bars, discothèques ou encore les maisons de projection des matchs de football, souvent installées à proximité des habitations. Selon plusieurs habitants, ces activités perturbent la tranquillité et ont des conséquences directes sur la santé, notamment des troubles du sommeil, des maux de tête et un état de fatigue permanente. Ils demandent aux autorités d'imposer des zones spécifiques pour les activités bruyantes loin des habitations. John Bishikwabo.
Beaucoup d'églises de réveil dérangent les gens, que ce soit la nuit, que ce soit la journée. Et pour les bars, je dirais que eux aussi, s'ils s'éloignaient un peu de la ville, ça serait mieux.
Ces nuisances sonores ont également un impact sur l'éducation des enfants. Certains parents affirment que les bruits constants perturbent la concentration des élèves et affectent leurs résultats scolaires. Ori Basimba.
Vous êtes chez vous à la maison, vous êtes embrouillé fortement par la musique. On les empêche pas, mais ils respectent aussi nos droits.
Jusqu'à présent, aucune réaction officielle du maire de la ville n'a été enregistrée. Bounia, Christelle Aïchi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Guerre au Moyen-Orient, ce jeudi 23 avril, Israël et le Liban doivent reprendre leurs négociations à Washington sous médiation américaine. Dans la soirée, Le président américain a annoncé que le cessez-le-feu temporaire entre les deux pays est prolongé de 3 semaines. Pourtant, l'armée israélienne et le mouvement armé libanais Hezbollah continuent de s'affronter. Les dirigeants libanais accusent notamment Israël d'avoir perpétré un crime de guerre après la mort de la journaliste Amal Khalil dans une frappe aérienne israélienne dans le sud du pays.
L'invité.
Notre invitée est Brigitte Hénon, représentante du Haut Commissariat aux réfugiés au Burundi. Elle nous parle du retour à Uvira de réfugiés congolais en provenance du Burundi, c'est jeudi 23 avril 2026. Dans cet entretien avec Jean Kassami, Brigitte Hénon revient également sur les critères de rapatriement et les indicateurs sécuritaires dans les zones de retour. Suivez.
Madame Brigitte Hénon, bonjour.
Oui, bonjour Radio Okapi.
Confirmez-vous le démarrage de l'opération de rapatriement volontaire de la première vague de réfugiés congolais vivant au Burundi?
Je confirme effectivement que nous avons lancé aujourd'hui le HCR et le gouvernement du Burundi et le gouvernement de la RDC. Nous venons de lancer aujourd'hui le premier convoi pour les retours facilités des réfugiés congolais qui vivaient ici au Burundi.
De quelle partie du Burundi proviennent les 770 réfugiés qui rentrent en première position au pays ce jeudi?
Comme vous le savez, ça fait depuis décembre que les réfugiés sont arrivés ici. Nous avons reçu plus de 100 000 personnes en provenance de l'est du Congo, mais 66 000 parmi eux avaient été transférés à Ruigi, au site de Busuma. Et donc, c'est parmi ces réfugiés de Busuma qui ont manifesté l'intérêt de rentrer chez eux que nous avons commencé à aider pour le retour. Aujourd'hui, nous avons un convoi de 470 personnes qui sont en train de partir, essentiellement autour de la ville de Uvira, mais également vers l'axe Fizi.
La plupart de ces réfugiés avaient tout abandonné derrière eux quand ils fuyaient la guerre. Leur survie va être assurée de quelle manière maintenant qu'ils sont de retour?
Nous donnons du transport à partir du Burundi, mais c'est à l'arrivée au Congo que ces personnes pourront bénéficier de ce que nous appelons un petit paquet retour pour leur permettre de se réintégrer dans la sécurité et dans la dignité. Et ça sera fait par le HCR et les autres partenaires, bien sûr, au niveau du Congo, notamment le PAM, qui donne également une assistance pour 2 mois de rations alimentaires. Et du côté du HCR, il y aura une assistance en cash pour les adultes comme les enfants, mais également un appui pour la réinsertion dans le service éducatif pour les enfants.
Comment vous procédez pour les rapatriements, sachant que parmi ces réfugiés, l'on dénombre des catégories de personnes vulnérables?
En termes de catégories privilégiées, comme vous dites, ça sera essentiellement ceux qui se présentent volontairement pour se faire enregistrer pour le départ. Et également, ça doit être des gens qui rentrent dans des zones sécurisées. D'autres catégories, nous avons reçu des fonctionnaires de l'État qui ont demandé à être rapatriés parce qu'ils doivent aller reprendre service. Donc ceux-là aussi, s'ils se présentent volontairement, on va pouvoir les inclure. Et également des élèves, parce qu'il y a des élèves des classes terminales qui sont ici et qui ne voudraient pas rater leur année scolaire, on va également les faciliter le plus rapidement possible. Mais bien sûr, ça va se faire à celui qui se présente le premier, c'est celui qui sera également facilité.
Que savez-vous des conditions sécuritaires dans les milieux de retour de ces réfugiés?
Pour le moment, le HCR et le gouvernement ne faciliteront le rapatriement ou le retour volontaire que vers des zones qui sont dites sécurisées. Parce que, effectivement, pour les réfugiés qui rentrent, on ne veut pas que ce soit des gens qui vont rentrer dans des zones où ils vont encore aller vivre dans des camps de déplacés. Et donc, ça doit être les gens qui rentrent dans des zones sécurisées qui sont facilitées. On ne va pas faire le rapatriement pour ceux qui rentrent vers des zones qui ne sont pas encore sécurisées au niveau de la RDC. Et ces informations, nous coordonnons avec les équipes tant du HCR, mais également du gouvernement du Congo, pour nous informer des endroits qui sont aujourd'hui dites sécurisés. Et donc ça, c'est vraiment ce qui prévaut, parce que on ne veut pas que les réfugiés puissent rentrer et ensuite qu'ils ne peuvent pas continuer jusque dans leur destination finale, dans leur milieu de résidence habituelle. Et donc, c'est ça le critère pour ce rapatriement. Le caractère volontaire, mais également le retour dans la sécurité et la dignité. Donc voilà ce que je peux vous partager comme information pour le moment.
Brigitte Henault, représentante d'IACR au Burundi, merci.
Merci beaucoup, à bientôt.
Voilà qui met fin à cette édition du journal Parler du Matin, préparée pour vous par Jude Mystère Bilandan Koumar et mise en onde par Pierre Diassinois. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.